France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, penseur majeur de la colonisation et notamment de ce qu'elle produit dans les têtes. Premier épisode, Fanon psychiatre. Car oui, il était psychiatre. Frantz Fanon est né en 1925 à Fort-de-France, en Martinique. Il a retardé le moment du baccalauréat pour s'engager dans les forces françaises libres en 1943, rejoignant un bataillon de volontaires antillais qui ont rallié la 2e division blindée en Afrique du Nord. C'est là qu'il découvre pour la première fois l'Algérie. Fanon sera décoré de la Croix de guerre pour son courage dans les batailles qui ont suivi, en particulier celle d'Alsace au début de 1945. Il rentre ensuite à Fort-de-France pour passer son bac, année où il a pour professeur de philosophie le grand poète Aimé Césaire. En 1946, il part à Lyon faire des études de médecine tout en suivant des cours de philosophie, notamment ceux de Merleau-Ponty. Il devient psychiatre. Et dès 1952, il écrit sur la manière dont sont traités les malades nord-africains dans les services français de psychiatrie en métropole, taxés de malades imaginaires qui répondent mal aux questions des médecins et les agacent. Fanon va connaître cependant une autre psychiatrie, novatrice, désireuse de critiquer l'institution hospitalière traditionnelle. En 1952 et 53, il fréquente l'hôpital de Saint-Alban en Lozère, où François Tosquel est en train d'inventer un traitement moins fermé et moins dogmatique des malades psychiatriques, une vision qui sera prolongée plus tard par Félix Guattari à la clinique de Laborde. C'est avec ce bagage que Fanon postule au poste de médecin-chef de l'hôpital de Blida en Algérie, poste qu'il obtient. Il arrive là-bas fin 1953 et là, il voit et analyse beaucoup de choses. Une psychiatrie qui ne voit pas dans le colonisé un homme comme un autre et une atmosphère générale où même les plus innovantes méthodes psychiatriques sont vouées à des échecs parce que tout respire la soumission. Depuis un moment déjà, et c'était au centre de sa thèse de médecine en 1951, Fanon observait que l'expression psychiatrique des lésions neurologiques est très diverse selon les individus et selon les environnements sociaux. Dans l'Algérie des années 1950, il comprend à quel point tous les symptômes sont imprégnés par le système colonial. C'est de cette réflexion que nous parlons ce matin en ouverture de notre série sur Frantz Fanon. Bonjour Aimé Charles Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie émérite de la faculté de médecine des Antilles. Vous êtes né en Martinique. La lecture de Fanon a beaucoup compté pour vous. Vous avez publié notamment avec Benjamin Bausser, aux éditions Idem, L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations. Et puis en duplex avec nous, et merci d'ailleurs aux équipes d'ici Perpignan, mais donc bel et bien avec nous, bonjour Jean Calfa.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Trinity College de Cambridge. Vous avez édité et préfacé avec Robert Young aux éditions La Découverte, les écrits sur l'aliénation et la liberté de Frantz Fanon. Quand je dis professeur au Trinity College, vous enseignez l'histoire de la philosophie. Et vous avez aussi publié en anglais aux éditions Peter Lang un gros livre sur la poésie des Antilles évoquant Saint John Peirce, Aimé Césaire, Frantz Fanon et Édouard Glissant.
Si la culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable, on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. Cet élément culturel précis ne s'est cependant pas enquisté. Le racisme n'a pas pu se scléroser. Il lui a fallu se renouveler, se nuancer, changer de physionomie. Il lui a fallu subir le sort de l'ensemble culturel qui l'informait.
Et vous venez d'entendre Frantz Fanon lui-même. C'était une conférence, racisme et culture, ou plutôt une intervention au Congrès des écrivains et artistes noirs en 1956. Il nous dit à quel point la culture raciste, quand elle est là, imprègne tout de la culture. Et donc, assez logiquement, on peut l'imaginer, Aimé Charles Nicolas, elle imprègne aussi la culture psychiatrique.
Oui,
non seulement elle imprègne la culture psychiatrique, mais la découverte du racisme par Fanon à son arrivée en France à 17 ans a été traumatisante. Parce qu'il découvre non seulement qu'il est différent, mais qu'il est foncièrement différent, qu'il est visiblement différent, et qu'il est différent surtout par son infériorité. Cette infériorité, ben oui, c'est parce que le regard raciste infériorise. Et donc, il ressent, là, dans son corps, ce sentiment d'être considéré immédiatement comme inférieur.
Et pourtant, il le formulera véritablement en parlant d'autres que lui, c'est-à-dire en parlant des malades que, comme étudiant en médecine puis psychiatre, il va soigner. Et il va voir que dans les hôpitaux français, être nord-africain, c'est d'emblée pour un malade ne pas être compris, cru, être regardé d'une manière oppressante.
Oui. C'est une expérience qu'il avait déjà en quelque sorte pressentie, parce que je suis convaincu que il n'a pas choisi de faire médecine alors qu'il avait au départ pensé à faire de l'art dentaire. Il s'est inscrit, il est parti là brusquement à Lyon alors qu'il était à Paris pour faire médecine.
Oui.
Parce que ce qui l'intéressait, c'était l'homme. Et en troisième, quatrième année de médecine, il avait à réfléchir à la spécialité qu'il allait choisir. Et il aurait pu choisir effectivement la cardiologie, ou autre chose. Enfin, je veux dire la dermatologie ou l'ophtalmologie. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'homme. Et plus que l'homme, c'était l'humain. Et ce qui l'intéressait, à partir justement de cette expérience qu'il avait vécue dans son corps, qui était celle d'être différent, cette expérience très pénible du racisme lui a intimé l'ordre, en quelque sorte, de lire. Parce que sa question, c'était « Qui suis-je ? Puisque je suis si différent, puisque je suis foncièrement, puisque je suis visiblement différent, puisque je suis radicalement différent, qui suis-je ?» Et ça me rappelle d'ailleurs une phrase qui a été écrite, je lis là, parce qu'il est, par lui, par François Fanon, parce qu'il est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité, le colonialisme accule le peuple dominé à se poser constamment la question « Qui suis-je en réalité ?» Ça explique donc son appétit, son appétence pour les philosophes. Et vous savez qu'il s'est inscrit donc à Lyon en faculté de lettres pour étudier la philosophie, qu'il a beaucoup lu Merleau-Ponty, Heidegger, Husserl. Mais il a lu aussi beaucoup Aimé Césaire et les écrivains noirs américains. Donc, et ce qu'il cherchait, c'était quelque chose de l'ordre de l'humain. Et d'ailleurs, dans sa pratique psychiatrique, on verra par la suite combien cette préoccupation ontologique l'a obsédé, et combien il a été en permanence humain avec ses patients. C'est ainsi qu'on explique, donc on en parlera tout à l'heure, on explique donc sa mise en place à Blida, en Algérie, à l'hôpital psychiatrique de Blida, sa mise en place donc de méthodes de traitement révolutionnaires.
Est-ce que Jean Calfa, vous diriez aussi, comme vient de le faire Aimé Charles Nicolas, qu'en faisant de la psychiatrie, c'est lui-même que Fanon recherchait ? Ou bien est-ce un peu plus complexe ?
Je dirais les deux. Je vais partir d'un point que vient de souligner Aimé Charles Nicolas, qui est cette expérience dans le corps propre, donc dans le corps de Fanon, du regard raciste. Il emploie, lorsqu'il le décrit, dans Peau noire, masque blanc, donc son premier livre publié.
1952,
Oui, il emploie deux concepts qui sont des concepts psychiatriques pour décrire cette expérience du regard raciste. Le premier, c'est la décomposition du schéma corporel, qui est un concept qu'il emprunte par le biais de Merleau-Ponty, un grand psychiatre français, Charles Lhermitte, qui avait écrit un livre dans les années 30 sur les pathologies de l'image du corps. Donc il emprunte ce concept pour décrire l'expérience vécue de celui qui fait l'objet du regard raciste. Et alors que le corps se meut dans son environnement naturel, culturel, social, physique, de façon raisonnablement naturelle, en faisant des projections sur cet environnement, en supposant que le sol va être solide, en supposant que toutes sortes de paramètres physiques, mais aussi temporels. L'effet du regard raciste, c'est de décomposer ce schéma corporel, c'est-à-dire cette projection à partir du corps, inconsciente, en permanence, d'un environnement mobile. Donc celui qui fait l'objet de ce regard se sent tout à coup chose, objet. Fanon dit que il souffre d'une espèce d'hémorragie noire, qu'il se sent comme un insecte observé, etc. Donc un état d'être qui se caractérise par le malaise, l'embarrassement. Il dit d'ailleurs, il a un certain sens de l'humour, il dit dans le train, il s'aperçoit qu'il a trois places toujours. Personne ne s'assied à côté de lui. Et cela change son schéma corporel. Et puis l'autre concept, c'est l'idée d'un... C'est dérivé de Lacan. C'est l'idée de l'image du moi qui est, dit Lacan, fameusement, dans sa fameuse analyse du stade du miroir, qui est acquise par l'enfant à partir du moment où il se voit et où il est nommé par la mère. Tout se passe comme si le regard raciste opérait une régression. Celui qui le subit,
oui,
perd son visage par rapport à lui-même. Donc très tôt, il y a cette expérience propre à Fanon qu'il décrit de façon très vivante dans Peau noire, masque blanc, d'un regard, et en même temps cette capacité à l'analyser à partir de concepts psychiatriques. Donc son texte doit toujours être lu à la fois comme un texte à la première personne et à la troisième personne. On comprend bien que tous ces textes, en fait, même très tardifs, sont imprégnés de cette pensée psychiatrique.
On reviendra peut-être à sa thèse de psychiatrie de médecine de 1951, mais je voudrais tout de suite aller, en prolongement de ce que vous avez dit, à un texte que j'ai découvert en préparant cette émission et qui m'a passablement impressionnée. C'est un texte qu'il a publié en février 1952 dans la revue Esprit et qui s'intitule « Le syndrome nord-africain ». Il note, avec une plume déjà magnifique, combien les malades nord-africains, maghrébins, dans les hôpitaux français, ont beaucoup de mal à être précis. Ils parlent de leur douleur comme si elle envahissait tous leurs organes, et aussi bien le jour que la nuit. Je me permets de citer ce texte. Et bien évidemment, la conséquence, c'est que ça agace énormément le corps médical. Fanon écrit « Le patient nord-africain raconte sa douleur, qui devient de plus en plus sienne. Il l'expose avec volubilité. Il la saisit dans l'espace, la met sous le nez du médecin. Il la prend, la touche de ses 10 doigts. Elle grossit à vue d'œil. Il la ramasse sur toute la surface de son corps. Cette maladie répartie sur tout le corps, dit-il, cette souffrance continue, l'attitude la plus facile et à laquelle on est plus ou moins rapidement conduit est, de la part du médecin, la négation de toute morbidité, c'est-à-dire spécifique. À l'extrême, le Nord-Africain est un simulateur, un menteur, un tir au flanc, un fainéant. » Autrement dit, quand il répond « Où as-tu mal ?» D'ailleurs, le tutoiement est troublant, semble-t-il permanent à l'égard du malade maghrébin. On dit « j'ai mal là, et puis j'ai aussi mal là ». Mais là ou là? Bien sûr, il dit qu'il a mal partout. On lui demande s'il a mal le jour, la nuit, il répond les deux, tout le temps, etc. Et donc, il y a cette construction d'un malade imaginaire exaspérant pour les médecins. Là, je voudrais que le psychiatre qui est avec nous... Aimé Charles-Nicolas nous parle de ce texte que, encore une fois, j'ai trouvé époustouflant.
C'est une image qui a persisté pendant très longtemps dans les hôpitaux. Il faut le dire.
Mais oui, disons-le, nous sommes là pour ça.
Je veux dire que, moi, étudiant en médecine puis médecin, dans les hôpitaux, j'ai beaucoup donc travaillé dans les hôpitaux depuis 1963-64. Dans les années 60, comme dans les années 70, et même grignotant sur les années 80, cette image du syndrome nord-africain, c'est-à-dire que quand on voyait un malade nord-africain, on savait déjà ce qu'il allait dire. Donc c'était même pas la peine qu'il parle. Et on savait qu'il aurait mal partout, et on savait que c'était un malade imaginaire. Et c'était encore plus manifeste quand il s'agissait d'une femme. Et donc, ce qu'il faut se souvenir aussi, ce dont il faut se souvenir, c'est que là, il y avait quand même une vision de la femme au lit, dans un lit d'hôpital, avant, à l'avance, une vision qui craignait déjà qu'elle soit hystérique. Comme on pensait qu'elle risquait de l'être, eh bien, d'emblée, on avait déjà une image de cette, surtout si elle était évidemment nord-africaine, d'une femme hystérique. Et c'est pour cette raison que on a beaucoup mis de temps à mettre en place des structures spécifiques dans le traitement de la douleur en France. Parce que la douleur, c'est quand même un domaine tellement subjectif qui n'a pas véritablement de manifestation objective. Or, aujourd'hui, avec l'IRM, on peut repérer dans le cerveau
des lésions organiques
qui expliquent.
Qui expliquent, mais enfin, on y reviendra.
Pas forcément des lésions, mais des fonctionnements.
Voilà. Et encore, ça ne dit pas tout, et on va parler de ce problème chez Fanon. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que la douleur est davantage objectivée aujourd'hui.
Oui.
Elle a toujours, auparavant, était très subjective, mais quand en plus elle se donne dans quelque chose de terriblement aigu et monstrueux, comme avait tendance à le faire dans leur présentation des choses, des patients, pour lesquels la souffrance était un enjeu singulier. C'était la souffrance aussi de maghrébins en France. Ça, c'était terrible. On n'arrivait pas à le prendre en compte et on répondait par le mépris.
Et ça aggravait, bien entendu, la pathologie du malade. Le fait de n'être pas compris et surtout, effectivement, d'être traité avec mépris. Et c'est pour cette raison que l'échec de l'approche médicale signait justement la non-justification de cette soi-disant douleur. Elle n'était pas fondée, finalement, puisque le traitement n'avait pas réussi.
Oui, en plus, il raconte aussi dans ce texte admirable de 1952 que souvent, le médecin dit, bon, ben, prends ça, encore une fois, ce tutoiement, prends ça, mais un mois et reviens me voir si ça ne marche pas. Et puis, souvent, le patient revient au bout de 3-4 jours et c'est comme si on le savait à l'avance parce que cette douleur, elle a besoin de se dire et en même temps, elle semble impossible à soulager. Et il y a autre chose qui se joue dans la douleur d'un homme nord-africain ou d'une femme nord-africaine dans les années 50 en France.
Bien sûr qu'il y a autre chose. Il y a ce que disait à l'instant Jean Calfat concernant le racisme, c'est-à-dire quelque chose qui est effectivement inscrit dans le corps, quelque chose qui fait écho à, je veux dire, quelque chose donc de douloureux. C'est comme si c'était la douleur du racisme. Le racisme entraîne de la douleur. Et d'ailleurs, ça a été théorisé par deux Anglais dans Alien on Alienist, qui est un livre qui n'a pas été traduit en français. Alien on Alienist de Robert Littlewood et Maurice Lipsedge, qui démontre justement que ce racisme des équipes médicales, hein, parce que c'est quand même un travail qui est fait sur la vision par les psychiatres et par les autres médecins des malades psychiatriques en Angleterre. Et il démontre ainsi que il y a, ne serait-ce que par la vision, là, il y a une aggravation des symptômes, mais surtout que les traitements étaient toujours des traitements beaucoup plus traumatiques. Statistiquement, on utilisait beaucoup plus en Angleterre les électrochocs et les cures d'Asakel, etc., chez les Noirs que chez les Blancs.
Alors, il y a le problème du ressenti de la douleur, mais il y a aussi peut-être surtout l'expression et le fait qu'on ne se comprend pas entre le médecin blanc de métropole et le patient nord-africain. Je voudrais entendre votre réaction, Jean Calfa, à ce problème qui est tellement essentiel au début de l'itinéraire de Frantz Fanon, médecin, psychiatre.
Oui, alors je remonterai même un tout petit peu avant, c'est-à-dire à sa thèse de psychiatrie.
Merci, je voulais y venir justement. Oui.
C'est une thèse qui porte sur une maladie neurologique et qui montre que cette maladie peut s'exprimer ou non selon une multiplicité de syndromes psychiatriques différents les uns des autres. Et du coup, on prouve qu'il y a donc un écart entre le trouble organique et le trouble psychiatrique. Et c'est une critique en même temps du réductionnisme psychiatrique hérité du 19e siècle, mais qui domine encore lorsque Fanon fait ses études, qui voudrait assigner à chaque trouble psychiatrique une localisation neurologique.
Alors il s'agit, je précise pour nos auditeurs, il a fait sa thèse sur la maladie de Friedrich, d'un neurologue allemand, Nikolaus Friedrich. Il a détecté ce trouble en 1863, c'est une ataxie, c'est-à-dire un désordre, un déséquilibre dans les mouvements, mais Fanon, et Paulet certainement, vous allez nous en parler par des psychiatres qui veulent distinguer de plus en plus l'expression psychiatrique de l'origine organique d'un mal, Paul Girard, Madeleine de Romby, etc., montre dans sa thèse que l'expression psychiatrique de la maladie de Friedrich est extrêmement variable selon les individus, les cultures, l'environnement.
Oui, l'environnement familial en particulier. Et donc, ce qu'il montre dans sa thèse, c'est qu'il y a une sociogénèse aussi de la maladie mentale, outre l'ontogénèse, enfin le développement de l'individu lui-même. On ne peut pas la considérer indépendamment de son environnement et de systèmes complexes où il y a une réaction en fait de l'environnement à la maladie qui l'amplifie dans telle ou telle direction, etc. Alors tout cela le prépare en fait conceptuellement à percevoir que le regard des médecins sur les travailleurs immigrés nord-africains est un regard qui désespérément essaie de localiser, si on peut dire, le trouble mental et qui est complètement aveugle à la situation socio-culturelle de ces patients. Et cela, il l'emportera avec lui, évidemment, à Blida, c'est tout à fait crucial. Mais je pense que vous voulez qu'on en parle dans un moment.
Oui, alors avant Blida, je crois qu'il est important de dire que, cependant, une autre psychiatrie s'est offerte au regard de Fanon, celle qui a été pratiquée à Saint-Alban, dans le département de la Lozère, où il a en effet séjourné quelque temps, en 1951, 52, 53, je crois, juste avant d'arriver à l'hôpital de Blida en Algérie, auprès du psychiatre ô combien atypique François Tosquel. Je vous propose qu'on en parle un petit peu, mais dans le film qui vient d'être réalisé par Jean-Claude Barny, qu'on peut voir en ce moment au cinéma, où Fanon est interprété par Alexandre Bouillet, eh bien, on entend cette référence à François Tosquel à un moment précis où un étudiant arrête Fanon et lui dit qu'il veut travailler avec lui, notamment parce qu'il sait qu'il a rencontré François Tosquel. Écoutez.
Docteur ? Monsieur Fanon ?
Soyez bref, jeune homme, je n'ai pas le temps.
D'accord, je m'appelle Jacques Azoulay, je suis interne et je veux rejoindre votre équipe. Je veux travailler avec vous.
Et qu'est-ce qu'on dit de moi à la fac d'Alger ?
On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Mmh. Et que personne ne veut travailler avec vous, sauf les Algériens.
En somme, vous venez à mon secours.
Non. C'est vrai que vous avez travaillé avec Tosquel, à Saint-Alban ?
C'est lui qui m'a appris mon métier, oui. Vous voulez devenir psychiatre ?
En fait, moi, au départ, je voulais plutôt faire philo. Ouais. Mais mes parents pensent que c'est pas un vrai métier. Alors que médecin, oui.
Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos parents?
Ils sont ailleurs.
Intéressant, ça. Alger?
Oui.
Eh bien, vous me donnerez leur adresse.
D'accord.
Vous commencez demain.
Jean Calfa, qui était François Tosquel?
Alors, c'est un personnage d'une complexité et d'une histoire extraordinaire. Donc, c'est un psychiatre catalan qui, durant la guerre civile, rejoint les Républicains et qui organise des services de santé mentale pour les Républicains et qui, dans ce cadre-là, développe une psychiatrie alternative que bientôt on appellera la psychiatrie institutionnelle, puisque c'est une psychiatrie qui vise à réformer l'institution. C'est l'institution, vu du point de vue de Tosquelles, qui est malade et qu'il faut soigner, puisqu'elle produit en fait ou amplifie les maladies mentales. Donc Tosquelles développe une multiplicité de techniques qu'on a aussi appelé social thérapie, où il essaie de rendre de l'autonomie aux patients en les rendant responsables de la gestion des institutions dans lesquelles ils sont placés, et donc de créer une sorte de micro-société au sein de l'hôpital qui deviendra le moyen de leur émancipation. Et suite à la défaite donc des Républicains, ils se retrouvent en France, il y a une multiplicité de péripéties, et il est caché pendant la guerre à l'hôpital de Saint-Alban, à la demande de Paul Balvet, qui le dirige à ce moment-là, et qui ensuite d'ailleurs recommandera à Fanon d'aller travailler avec lui. Et après la guerre, il devient directeur donc de l'hôpital de Saint-Alban, et c'est là qu'il développe cette sociale thérapie.
C'est-à-dire
qui consiste en une multiplicité de techniques. Mais Fanon d'ailleurs a publié avec Tosquelles 3 articles qui résument assez bien leur pratique. Si on peut dire, le fondement de leur pratique, c'est que la maladie mentale est en fait une reconstruction fautive de la personnalité suite à un choc initial, qui est souvent le choc neurologique. Et la première étape, c'est donc nécessairement la dissolution de cette personnalité fautivement reconstruite, en autant de structures mentales que nous avons de maladies. Et pour cela, ils emploient les électrochocs, les cures de Sakel, les comas insuliniques, donc, ou les thérapies du sommeil. Mais ensuite, cette personnalité doit être reconstruite. Alors, elle est reconstruite par une multiplicité d'interventions, psychothérapie individuelle ou en groupe. Ils sont pionniers de la drama therapy, mais aussi participation à la gestion, à l'organisation et à la gestion de l'hôpital. Donc à l'hôpital de Saint-Alban, les malades publient un journal, publient physiquement, l'impriment. On dit d'ailleurs que Tosquelles, fuyant l'Espagne, avait amené avec lui la thèse de Lacan, et qu'un des premiers travaux des malades, ça avait été d'imprimer plusieurs exemplaires de la thèse de Lacan.
Vous voulez parler du texte de Lacan de 1932 pour sa première édition, de la psychose paranoïaque, voilà. Dans ses rapports avec la personnalité, c'est ça?
Voilà, qui a marqué à la fois Tosquelles et Fanon. Donc, ils impriment un journal, ils ont toutes sortes d'activités, ils travaillent. L'hôpital de Saint-Alban est totalement intégré à son environnement, qui est un environnement très rural, évidemment. Ils organisent des fêtes. On a beaucoup de documents sur cette période, des petits films, etc., où on voit que les malades partent en excursion le week-end avec les paysans, les enfants, etc. Donc il y a un univers qui est reconstruit au sein de l'hôpital, et l'idée est que petit à petit, les malades regagnent une certaine autonomie que la maladie mentale leur avait ôtée, et que les asiles psychiatriques classiques n'avaient fait que nier, renforçant en fait la maladie. Ce qui est une thèse dominante à l'époque déjà, qui avait été développée à la fin du 19e siècle. On s'était aperçu que l'enfermement, en fait, exacerbait les symptômes.
Donc Antoine Tosquelles, pardon, j'ai dit Tosquelles comme beaucoup le disent, mais vous vous dites Tosquelles en rappelant évidemment son origine catalane, c'est sans doute plus correct, est un précurseur de cette psychothérapie sociale, institutionnelle, changer l'hôpital avant d'envisager un hôpital capable de soigner. Et c'est précurseur, puisque c'est plus tard seulement, souvent on fait référence à Félix Guattari à Laborde, mais ça arrivera plus tard et c'est un prolongement. Voulez-vous en dire un mot, vous qui êtes psychiatre, Aimé Charles-Nicolas?
Oui.
De cet héritage important au moment où Fanon arrive à Blida en Algérie, en novembre 1953. Il a vu tout cela, il a vu la médecine et la psychiatrie française dans ce qu'elle a de plus dogmatique et traditionnel. Il a aussi vu des innovations assez extraordinaires pour l'époque.
Oui, il a mis en place donc ces innovations extraordinaires dans la mesure où le fait, par exemple, d'organiser des matchs de football entre patients et infirmiers avait apparemment un caractère anecdotique, en réalité transformait profondément les patients et aussi les infirmiers, de sorte que le regard sur l'autre changeait radicalement et que ce patient qu'on voyait à peine, qui était quasiment transparent, devient une personne humaine. Et donc, c'était essentiel de comprendre le caractère proprement révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été ainsi très vite combattu. Et alors, il y avait aussi cette désinstitutionnalisation. Il a été donc parmi les premiers aussi à proposer que les patients sortent de l'hôpital, qu'ils puissent se promener, qu'ils puissent prendre un café ensemble à l'extérieur de l'hôpital. C'est des institutionnalisations qui a été d'ailleurs développée après par l'antipsychiatrie. D'ailleurs, on peut dire que Frantz Fanon a été un précurseur de l'antipsychiatrie, qui a, comme vous le savez, beaucoup insisté sur les liens entre la maladie mentale, le pouvoir politique et les structures politiques. Et ce qui me semble intéressant aussi à souligner, c'est que lorsque on baigne dans cette croyance dans la supériorité de l'homme européen et que on travaille à l'hôpital Blida sur la réhumanisation, parce que c'est évidemment, donc ça, il utilise beaucoup ce mot de déshumanisation donc des patients par le système colonial. Donc cette réhumanisation qui est faite par l'équipe de Fanon est en soi révolutionnaire.
Oui, alors je vous propose qu'on voit les effets de cette révolution sur place en Algérie, où là, ce n'est pas qu'il tombe sur une psychiatrie à la française traditionnelle qui a ses mépris et ses ignorances, c'est qu'il tombe sur une psychiatrie totalement archaïque avec des théories spécifiques qui sont héritées d'un monsieur psychiatre qui a formé plein de monde là-bas en Algérie, Antoine Porot, qui croit au primitivisme, qui pense que les Algériens n'ont pas le même cerveau que les Européens, qu'ils ont des complexes archaïques. Écoutez dans le film, donc la fiction biopic qui est en ce moment visible sur nos écrans, le film sur Fanon, donc écoutez l'accueil qui lui est réservé par le psychiatre en place à Blida en Algérie.
Bonsoir, Auguste Darmin.
Bonsoir.
Docteur Frantz Fanon.
C'est bien ça, monsieur le directeur.
Dites-moi, libérer les patients, c'est une idée à vous?
Je n'enchaîne pas les patients.
Mais c'est pour leur propre sécurité. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains?
Eh bien, dans mon service, ils auront le même traitement que les patients européens. Les mêmes droits.
Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Les Nord-Africains sont plus violents, plus primitifs, absence de lobe préfrontal. Poro, notre maître à tous, c'est lui qui a fondé cet hôpital, il sait de quoi il parle.
Ce sont des hommes comme vous et moi.
C'est vous qui avez choisi l'Algérie pour votre premier poste?
Vous pensez que j'aurais été plus légitime à soigner mes congénères antillais?
Je vous préviens, Fanon. Au moindre incident, je vous tiendrai personnellement responsable.
Ça tombe bien, monsieur Darmin. Je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités.
Et on entend dans le film à quel point Fanon va tenter sur place de combattre cette psychiatrie raciste, raciste structurellement. Écoutez notamment cette scène en amphithéâtre devant des étudiants, toujours en Algérie.
Le langage du colon quand il parle du colonisé est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, pour trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Et la première chose que l'indigène apprend à faire, c'est à rester à sa place. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par une meute de voitures qui ne me rattrape jamais.
Jean Calfa, pouvez-vous commenter notamment cette dernière partie de l'intervention de Fanon, alors en fiction, hein, puisque c'est le film sur sa vie qu'on peut voir en ce moment, ce moment où il dit que l'Algérien colonisé a un désir de mouvement qui est à la mesure de la soumission qu'on exige de lui. Je vous écoute, Jean Calfa, et puis peut-être aussi pour commenter toute cette ambiance de la psychiatrie coloniale.
Oui, Antoine Porro, donc le chef de file de ce qu'on appelait l'école d'Alger, lui se voyait comme un moderniste. L'hôpital de Blida était effectivement entièrement conçu par Porro en 1933, je crois, et comme un hôpital révolutionnaire et très moderne, luxueux même, à ceci près qu'il il ségréguait les populations indigènes et les populations européennes en disant que alors que dans l'hôpital général, donc qui traite des troubles physiques, toutes les populations pouvaient être mélangées. Les indigènes avaient une constitution mentale. Alors, ce concept de constitution mentale est un concept qui sera attaqué très violemment par Tosquelles et par Fanon. Les indigènes donc avaient une constitution mentale spécifique qui les maintenait à un niveau de développement qui est plutôt celui de l'enfant avant 3 ans à peu près, c'est-à-dire avant que l'enfant ne développe une conception de du regard de l'autre sur eux-mêmes, donc une sorte de philosophie de l'esprit de l'autre. Et que donc il fallait absolument les séparer et que les traitements que l'on donnait aux uns ne pouvaient pas réussir pour les autres. Et Fanon, arrivant à Blida, donc se retrouve dans ce milieu-là, radicalement différent de celui de l'hôpital de Saint-Alban, et donc commence tout de suite à appliquer toutes les méthodes de psychothérapie institutionnelle qu'il avait apprises et qui fonctionnent. Vous avez mentionné, enfin, on voit dans le film ce jeune interne Azoulay. En fait, Azoulay a écrit une thèse avec Fanon qui documente tout cela. Et donc, on voit bien comment ces techniques fonctionnent, comment l'hôpital est révolutionné dans les pavillons dont Fanon a la responsabilité. Mais plus pour les Européens que pour les indigènes, comme on disait à l'époque. Et donc, Fanon se trouve devant une sorte de dualité. Soit il tire la conclusion de Porro, ces indigènes sont constitutionnellement retardés, et donc nos méthodes ne marcheront pas. Soit il essaie de regarder une autre cause, et c'est là qu'il s'aperçoit que les médecins sont complètement aveugles à la dimension culturelle des traitements, jusqu'à présent. Qu'ils traitent donc les individus comme des choses sans prêter attention à leur environnement socio-culturel, et donc ils commencent à développer des psychothérapies institutionnelles ou de la social-thérapie dans des contextes et dans en utilisant, disons, des structures qui sont propres aux sociétés locales. Alors, par exemple, au lieu de faire des séances de cinéma, le cinéma étant pour Fanon un instrument important de psychothérapie parce qu'il permet aux malades ensuite de commenter les situations qu'ils voient. Sauf que les films que l'on voit à l'époque sont des films qui présentent des situations typiquement européennes ou américaines. Donc au lieu de faire cela, il fait venir des conteurs traditionnels et les malades peuvent ensuite interagir avec ces conteurs et discuter des situations dont ils sont témoins, etc. Et petit à petit, dit Azoulay dans sa thèse, on a obtenu des résultats qui étaient à peu près similaires pour les indigènes aussi bien que pour les Européens. Donc, toute l'expérience de la psychothérapie institutionnelle de Blida et en même temps son expérience de Martiniquais, donc cette longue histoire de ces analyses du regard raciste, font de Fanon non seulement un précurseur de l'antipsychiatrie, mais aussi un précurseur de l'ethnopsychiatrie moderne, oui. Sur laquelle il a beaucoup écrit, en fait.
Alors, conceptuellement, je trouve ça très intéressant, c'est assez subtil, parce que d'un côté, face à une psychiatrie qui singularise et qui, en vérité, animalise, et même pas, enfin, qui chosifie le colonisé, l'indigène, le nord-africain, il ramène, évidemment, tous ses patients dans un certain universel humain, enfin, ce sont des patients tout à fait comme les autres. Et dans un second temps, il voit bien qu'en même temps, les techniques ne marchent pas aussi bien sur eux, les techniques qu'il avait apprises en France d'Antoine.
François.
François, pardon, excusez-moi. Voilà, Toscane ne marchent pas aussi bien. Et donc là, il a un deuxième geste qui est. Et en même temps, ils ont une spécificité. Ils sont. Bien sûr que ce sont des patients comme les autres, il y a un universel du malade. Mais il y a néanmoins une spécificité culturelle qui est la nature de la soumission qu'ils vivent au quotidien et qui oblige le médecin à inventer aussi d'autres choses. Et peut-être d'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a un certain échec quand même. Ça marche.
Oui, oui.
On est d'accord avec
il
ça.
Il a un certain échec.
Et cet échec l'intéresse.
Mais oui, parce qu'il tire ici, bien entendu, une leçon de cet échec. C'est un peu ce que vient de dire Jean Calfa, c'est-à-dire que il n'a peut-être pas suffisamment insisté sur cet échec de cette psychothérapie institutionnelle chez les patients algériens. Qui, au départ, donc, ont été confrontés à quelque chose de purement occidental, hérité de Saint-Alban. Et c'est pour cette raison que là, progressivement, Fanon prend conscience de l'importance de la spécificité culturelle de l'Algérie, des Algériens, du fait que cette culture a été niée, oubliée, effacée dans l'hôpital, et donc il y a là, avec cet échec, il y a un renouvellement de la pensée de Fanon qui lui permet de prendre en compte davantage les spécificités culturelles. Alors il a effectivement créé en plein hôpital un café algérien avec les traditions spécifiques à la prise du café, à la consommation de café, donc en Algérie, un peu comme il y a des rites britanniques autour du thé. Ça a commencé à marcher. Alors évidemment, il est parti un peu trop tôt pour avoir pleinement le plaisir de voir le succès de cette sociothérapie culturelle algérienne.
Oui, et puis alors on va revenir sur l'échec partiel qui le fait penser, m'a-t-il semblé, en préparant cette émission, que il y a quelque chose de politique doit arriver pour cesser. On peut pas soigner totalement des gens qui sont dans une situation politiquement intenable. C'est ça le problème, non?
Oui, parce que comme vous avez dit tout à fait tout à l'heure, vous avez parlé donc de l'influence de l'environnement. Vous avez utilisé deux ou trois fois le mot d'environnement. C'est évidemment aussi l'oppression coloniale qui est un environnement présent à la fois dans la société, mais aussi à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. et qui a déjà imprégné largement donc l'enfance et l'adolescence de ces patients que l'on voit adultes dans l'hôpital. Et donc, évidemment, ils sont victimes de cette... Et d'ailleurs, il a beaucoup insisté sur le fait que non seulement il y avait dans cette colonisation une oppression par l'occupation du terrain politique et du terrain d'ailleurs physique, puisqu'ils ont été sortis de leur propriété, etc. Enfin, je parle des paysans. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de souligner que à cette époque, tout de même, il y avait une bonne conscience.
De qui ?
Il y avait une bonne conscience de la psychiatrie officielle, qui était en contact, en relation directe avec, justement, ce que vous disiez à l'instant sur l'ethnopsychiatrie, qui avait elle-même aussi inventé le primitivisme. Sauf que le primitivisme de l'ethnopsychiatrie traditionnelle de l'époque, Lévi-Bruhl, etc., était très différente du primitivisme qu'on a gardé de Picasso, qui avait au contraire valorisé ce que les primitifs, entre guillemets, lui apportaient. Donc on a deux primitivismes qui sont carrément opposés.
Oui, et puis donc, voilà, si vous le voulez bien, on va continuer un peu de parler de ces problèmes qui sont si aigus face à lui dans un hôpital d'Alger. Mais je voudrais tout de suite dire que la conclusion, c'est qu'il a démissionné, Fanon.
Oui.
Et il a envoyé au ministre résident gouverneur d'Algérie, Robert Lacoste, en décembre 1959, une lettre de démission extraordinaire. Ouais. On peut la lire dans les écrits sur l'aliénation et la liberté que vous avez édité et préfacé, Jean Calfa. Écoutez.
Blida Joinville. À monsieur le ministre résident, gouverneur général de l'Algérie, Alger. Monsieur le ministre, installé à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville le 23 novembre 1953, j'y exerce depuis cette date les fonctions de médecin-chef de service. Bien que les conditions objectives de la pratique psychiatrique en Algérie fussent déjà un défi au bon sens, il m'était apparu que des efforts devaient être entrepris pour rendre moins vicieux un système dont les bases doctrinales s'opposaient quotidiennement à une perspective humaine authentique. Pendant près de 3 ans, je me suis mis totalement au service de ce pays et des hommes qui l'habitent. Je n'ai ménagé ni mes efforts ni mon enthousiasme. Pas un morceau de mon action qui n'ait exigé comme horizon l'émergence unanimement souhaitée d'un monde valable. Mais que sont l'enthousiasme et le souci de l'homme, si journellement la réalité est tissée de mensonges, de lâcheté, du mépris de l'homme? Que sont les intentions si leur incarnation est rendue impossible par l'indigence du cœur, la stérilité de l'esprit, la haine des autochtones de ce pays? La folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que, placé à cette intersection, j'ai mesuré avec effroi l'ampleur de l'aliénation des habitants de ce pays. Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l'homme de ne plus se sentir étranger à son environnement, je me dois d'affirmer que l'arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Le statut de l'Algérie, une déshumanisation systématique. Or, le pari absurde était de vouloir coûte que coûte faire exister quelques valeurs, alors que le non-droit, l'inégalité, le meurtre multicotidien de l'homme sont érigés en principes législatifs. Monsieur le ministre, les événements actuels qui ensanglantent l'Algérie ne constituent pas aux yeux de l'observateur un scandale. Ils sont la conséquence logique d'une tentative avortée de décérébraliser un peuple. Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous demander de bien vouloir accepter ma démission et de mettre fin à ma mission en Algérie, avec l'assurance de ma considération distinguée.
France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Lettre de démission de Frantz Fanon remise au gouverneur d'Algérie Robert Lacoste en 1959. Je crois qu'il a mis quelques semaines après l'avoir écrite pour l'envoyer. Je voudrais vous laisser, ce sera hélas le mot de la fin, le commentaire de cette lettre, Jean Calfa, vous qui l'avez édité.
1956, en fait. Ce qui me frappe, moi, toujours en relisant cette lettre, c'est que peut-être elle exprime le mieux cette attitude de Fanon, qui est peut-être son concept philosophique fondamental, qui est celui de vigilance, lorsqu'il dit qu'il n'a pas perdu un instant lorsqu'il était psychiatre. On sait qu'il passait effectivement ses jours et ses nuits à s'occuper des malades, à essayer de former les infirmiers pour qu'ils aient un nouveau rapport aux malades, pour qu'ils acquièrent donc cette vigilance vis-à-vis de leur tendance spontanée à objectifier l'autre, à le déshumaniser, qui caractérisait toute la manière d'être de Fanon. Tous les témoignages que l'on a, c'est justement des témoignages qui montrent ce qu'on pourrait appeler son humanisme, en fait, dans sa pratique médicale. Bien entendu, le fait que la psychiatrie est liée, est déterminée par les circonstances politiques. Toute sa pensée ultérieure, telle qu'on la voit par exemple dans Les Derniers de la Terre, consiste à, si on peut dire, transposer en fait ces concepts psychiatriques à sa philosophie de l'histoire, puisqu'il pense le choc de la colonisation sur le modèle du choc neurologique, la violence du combat révolutionnaire sur le modèle de la dissolution de la personnalité pathologique acquise par les colonisés, et puis le combat lui-même comme une forme de social thérapie, de resocialisation et de d'autonomisation. Donc cette lettre-là, elle contient effectivement à la fois tout l'héritage de Fanon jusqu'à la fin de sa présence en Algérie, avant qu'il parte en Tunisie, et en même temps, elle annonce en fait ce que va être sa pensée ultérieure lorsqu'il écrira l'enceinte de la révolution algérienne.
Dont nous parlerons demain et les autres jours. Je vous remercie beaucoup pour cette analyse. Je te salue, patrie de mes ancêtres, que la vie est douce sur ces terres et il me plaît d'y chanter. C'est une chanson algérienne qui s'intitule Alaïki Meni Salem. Elle a été écrite par Halim Damous dans les années 1930. Elle est devenue une chanson traditionnelle, souvent interprétée. Ici, c'est l'Orchestre National d'Alger. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, mes invités d'aujourd'hui, Jean Calfat et Aimé Charles Nicolas. Merci aux équipes techniques aussi d'ici Perpignan qui ont permis de réaliser ce duplex. Et je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la proportion et à la disproportion. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi a-t-on peur de la disproportion ? Dans ma génération d'étudiants de philosophie, disons en gros à la fin du XXe siècle, on reprenait beaucoup une critique adressée par un certain philosophe allemand, Martin Heidegger, à la notion de raison. La notion de raison, disait-il, n'est pas seulement une faculté de penser en général, neutre, c'est une faculté qui a mené à la maîtrise, voire à la destruction du monde, et cela à travers une diminution de notre pensée à quelque chose qui lui paraissait critiquable en soi, à quelque chose comme un rapport maîtrisé, une réduction du monde à la proportion humaine qui aurait ainsi détruit le monde. Il disait même « arraisonner le monde, détruit le monde sous prétexte de le ramener à des rapports humains maîtrisés par la technique ». Il voyait, à juste titre, dans la notion de raison, en latin « ratio », le rapport, la proportion mathématique, par exemple 4 sur 2, qui est égal à 2, un rapport qui, en effet, met les choses sous le signe d'une commune mesure. La raison, c'est la mesure du monde, c'est la commensurabilité du monde, c'est un rapport. Et le mot logos, en grec, désigne là aussi la notion de rapport, de mettre en rapport, même si le même Heidegger, dans ses étymologies spéculatives, avait cherché un autre sens au mot logos, le mot cueillir, le mot rassembler, d'une autre façon que simplement mathématique, dans la proportion du monde que produisent les mathématiques. Mais aujourd'hui, on a peut-être envie de revenir sur ce sens positif de la raison comme rapport, comme régularité, comme proportion, comme équilibre, et envie de revenir aussi sur cette angoisse des humains face à ce qui échappe à cet équilibre, face à ce qui échappe à ces rapports quantitatifs mesurables, ce qui du proportionné devient le disproportionné. On a beaucoup spéculé aussi dans l'histoire des sciences sur ce qu'on appelait en Grèce la crise des irrationnels. Les irrationnel, c'est en effet un mystère au cœur même des mathématiques. Vous avez, par exemple, deux nombres entiers, c'est très simple. Vous les mettez en rapport, vous cherchez à les diviser l'un par l'autre et vous tombez sur une suite indéfinie de nombres après la virgule. Vous tombez sur des nombres irrationnels. La racine carrée de 2, qui est nécessaire pour établir, par exemple, les théorèmes sur les triangles, la géométrie la plus parfaite, elle est immaîtrisable par notre raison. La proportion se découvre hanté par le disproportionné, par l'infini, par le déraisonnable. Et il y aurait donc chez les Grecs une volonté, en effet, par le calcul, par la raison, de maîtriser ce qui nous échappe, de maîtriser les infinis qui ne sont pas mesurables, de trouver la mesure des choses au cœur des choses elles-mêmes. Et les mathématiques sont alors la raison du monde. Oui, nous avons peur, en un certain sens, nous avons peur de la disproportion, nous avons peur de ce qui échappe à la rationalité, à la commensurabilité du monde. Mais est-ce une erreur ? Est-ce, comme Heidegger le pensait, une faute métaphysique ? Est-ce une réduction du monde à la technique ? Ou bien cela ne vient-il pas aussi d'une véritable hantise humaine ? Oui, nous avons peur des réactions disproportionnées, des passions sans mesure, du fait que pour une petite insulte, on déclenche une guerre sans fin, du fait que la disproportion des effets ne se mesure pas à la causalité des actes, à la mesure des actes. Oui, nous avons besoin d'une proportion, peut-être est-ce là le sens profond de la raison, non pas comme domination du monde, mais comme équilibre entre les hommes.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Ruben Karmazin. Merci aux équipes d'ICI Perpignan. Elle a été préparée en particulier par Axel Dubois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.